révision de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. Magdalena Hrozinkova vous tiendra compagnie dans les minutes suivantes. À l'affiche aujourd'hui le cinéma puisque nous reviendrons à Karlovy Vary. Nous vous parlerons aussi de l'écrivain tchèque Antonín Bajaja et une partie de l'émission sera réservée à votre courrier. David Doucha est un réalisateur hongrois qui vit en France depuis une quinzaine d'années. Après quelques courts-métrages, il a réalisé son premier long-métrage, Fleur du Mal, qui était présenté dans le cadre du 46e festival du film de Karlovy Vary. Anna Kubeshta l'a rencontré.
Culture sans frontières. Anna Kubeshta.
David Doucha, vous êtes le réalisateur d'un film qui s'appelle Fleurs du Mal, au pluriel. Pas les Fleurs du Mal, même si ça fait référence en effet à Baudelaire. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et votre film est présenté à Karlovy Vary dans le cadre de la section Varieties Critics' Choice. Ce film a été présenté dans ce cadre au public. Quel était ce public et comment est-ce qu'il a réagi simplement comme ça, à vif?
Ben, ça a été une très belle expérience. La salle était complète, même il y avait des gens assis par terre. C'était un public très très jeune, et donc il y avait un débat assez animé à la fin, qu'on a dû couper au bout d'un moment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Comme le film parle beaucoup d'Internet et tout ça, je pense que c'est... Un public jeune réagit beaucoup plus en le détail au film, puisque les jeunes générations ont intégré l'Internet dans leur vie quotidienne beaucoup plus qu'une génération de nos parents, enfin, un peu plus âgés.
Alors, justement, il faut un petit peu préciser, Fleur du Mal, c'est l'histoire d'une rencontre, la rencontre de deux personnages, ce sont les deux personnages principaux, un jeune homme et une jeune femme. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous résumer très brièvement l'intrigue?
Donc en fait le film se déroule juste après les élections présidentielles en Iran en 2009 où en fait les élections étaient truquées et les gens descendaient dans la rue en Iran pour réclamer le changement. Ces gens utilisaient les réseaux sociaux, leurs téléphones portables pour médiatiser quelque part leur combat, mais aussi pour organiser la révolution. Et donc ça, c'est le backdrop, comme on dit, c'est le base. Et donc le film parle d'une jeune fille iranienne qui est envoyée en France par ses parents pour l'empêcher de participer à ces manifestations qui étaient très dangereuses. Et donc qui arrive en France et qui tombe amoureuse du bagagiste de son hôtel de luxe. Et donc eux, ils vivent une histoire d'amour très libre, très jeune, très... belle comme ça, mais elle garde contact avec son pays justement à travers les réseaux sociaux et donc elle est déchirée entre vivre l'amour à Paris ou rentrer chez elle pour se battre pour la liberté ou pour le changement en tout cas.
D'une certaine manière, son corps est à Paris mais sa tête est toujours finalement à Téhéran.
Absolument, et c'est précisément le problématique que pose le film au niveau d'Internet, c'est peut-être le critique que le film peut donner à l'Internet, c'est-à-dire que ça nous permet de vivre de multiples vies, de multiples avatars, enfin de multiples choses en même temps et qui peut aussi nous empêcher d'être présents réellement dans un endroit où on est physiquement. Et donc le film mélange une fiction tournée à Paris avec des images de YouTube que j'ai téléchargées qui représentent à peu près 20% du film, donc c'est des images d'Iran que j'ai trouvées sur YouTube.
Alors pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à cette révolution-ci? C'est vrai que par exemple, c'est parce que c'est une des premières justement à avoir intégré cet élément de l'Internet et des messageries, des vidéos envoyées finalement de l'histoire qui se joue sous nos yeux.
Effectivement, j'ai suivi les élections en Iran même avant que ça devenait ce que ça devenait. Parce que je suis intéressé par le géopolitique, mais aussi parce que j'avais toujours des amis iraniens. Et cette fois-ci, cette élection était très particulière parce que c'était très vibrante. Il y avait des vrais débats télévisés entre les candidats, il y avait des vrais meetings politiques, et quasiment comme ça peut arriver en Europe. Et des gens étaient très engoués par ce qui se passait, et ils avaient vraiment l'impression que leur voix allait se faire entendre. Donc je suivais ça de près. Alors après, pourquoi l'Iran dans la suite? C'est vraiment parce que effectivement, c'était C'était pas la première fois. Il y a des exemples, d'autres exemples, mais beaucoup plus localisés et avec quelque part beaucoup moins d'impact. Notamment Moldavie, il y avait une révolte des jeunes qui est aussi très liée à l'internet. Mais cette fois-ci, c'était très intéressant justement par l'abondance de l'information qui circulait et le savoir-faire que les activistes iraniens ont mis dans justement la médiatisation de leur révolution. Effectivement, dans le média, dès juin, juillet 2009, ça a été, ils ont dit, oui, c'est les révolutions Twitter, tout ça. C'est pas vraiment vrai, enfin, c'est vrai dans une certaine façon, mais il faut dire que l'utilisation de Twitter en Iran est très très limitée. C'est pas du tout ça qui était le moteur de la révolte. Par contre, Twitter a été le moteur de la médiatisation de ces événements, c'est-à-dire que c'est à travers Twitter qu'on a su être au courant en fait de ce qui se passe en Iran, et c'est à travers Twitter aussi que les activistes attiraient l'attention des médias occidentaux à ça, et donc du coup c'est pour ça aussi que ça s'appelait donc Twitter Revolution, mais qui est un peu ça vend bien des journaux, donc je pense que c'était ça. Malgré cela, c'était quelque chose où l'internet était très important pour justement l'organisation aussi de la révolte.
Alors justement, quelles étaient un petit peu les réactions des jeunes? Est-ce qu'il y avait des personnes qui contestaient finalement à Internet cette force, ou alors en tout cas qui critiquaient pour les écueils dans lesquels on peut tomber justement quand on est branché 24 heures sur 24.
C'est une question compliquée. Il n'y avait pas du tout de critiques négatives, c'est-à-dire des gens qui questionnaient justement l'évolution dans laquelle on est engagé quelque part. Ça a été des débats qui étaient dans d'autres festivals, mais hier notamment, c'était plutôt des gens qui étaient très contents que justement, j'étais pas du tout dans cette espèce d'alarmisme général que l'internet ça tue les contacts humains, des choses comme ça, parce que c'est pas du tout vrai, pas du tout. Je pense que les générations qui nous dirigent, c'est-à-dire les générations qui ont maintenant 55 et 75 ans, ils ont aucune idée de ce que c'est l'internet réellement, ils ont aucune compréhension du pouvoir des réseaux sociaux.
Du coup, ça leur fait peur aussi.
Ça leur fait très peur, et avec justesse, parce qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir à cause du fait qu'ils ne comprennent rien des réseaux sociaux et comment fonctionne en fait l'information dans cette ère. Moi, je suis convaincu que il y a beaucoup de jeunes qui sont là aussi, mais peut-être qu'ils n'ont pas suivi la révolution iranienne, peut-être qu'ils suivent un peu, tout petit peu plus les révoltes arabes, parce que maintenant c'est vraiment massif, ça touche une grande partie, une grande surface de la terre finalement, enfin de Maroc jusqu'en Iran. Il y a deux choses, c'est-à-dire que il y a simultanément de ce qui se passe au Moyen-Orient qui est très très particulier parce que c'est des dictatures et ils sont en train de se débarrasser, c'est un peu une chute du mur de Berlin 2.0, si on peut dire ça. Mais je pense que ce qui se passe ici en ce moment, c'est une crise profonde de la capitalisme européen, mais aussi occidental, dans un sens où l'idée de capitalisme, de logique du marché, de prêt bancaire, tout ça est arrivé au bout. Je pense qu'on est au bord de la faillite. Je pense qu'on va faire faillite. C'est juste une question de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très 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 en colère parce que nos dirigeants politiques sont en train de brader notre futur pour des raisons complètement débiles. Et je pense que des jeunes sont en train de regarder justement comment les jeunes d'autres pays utilisent les réseaux sociaux pour forcer du changement. Et je pense qu'on va voir des mouvances en Europe aussi de même forme, même si ça va pas être violent, parce que la police en France, faut pas tirer dans la foule. Enfin, ça n'existera jamais.
Oui, mais remis à la situation française, il peut se passer des choses similaires pas forcément de révolution, mais de révolte ou de rébellion.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il y aura l'élection française qui va être très très houleuse. Je pense que ça a déjà commencé avec plein d'affaires de mœurs. Disons, je pense que ça va être une élection présidentielle très houleuse. Mais au-delà de ça, je pense que ce que je disais, c'est que l'Europe et l'euro en face d'une crise mortelle, je pense. Ça va pas, on va pas le résoudre, pas en gardant un status quo. Ça va changer profondément le fonctionnement politique de l'Europe. Et le problème, c'est que les vieux, ils sont en train de juste se dire qu'ils essayent de repousser l'échéance de cette débâcle à 10 ans pour qu'eux, ils prennent leur retraite. Et puis après, c'est le problème de la prochaine.
Pour revenir à votre film, j'aurais aimé un peu parler des acteurs qui sont touchants. Enfin, notamment, j'ai trouvé particulièrement le jeune homme qui joue qui joue Rachid. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Enfin, c'est des acteurs amateurs?
Alors, la naissance du film, c'est effectivement des vidéos YouTube, mais aussi Rachid. Rachid, je l'ai rencontré pour un autre projet, en fait, que je n'ai pas encore fait, qui n'est pas encore financé. En fait, je l'ai rencontré dans une situation de casting assez classique pour un autre long métrage. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé sur l'autre projet, on s'est vu donc non professionnel. C'est un danseur, donc la danse, ça a été déjà faisait grande partie de sa vie.
Ça se voit.
Ouais, c'est pas moi qui l'ai appris à danser, ça je peux dire très honnêtement.
Ça sentait quand même qu'il y avait du vécu derrière.
Oui, hein. Oui, c'est vraiment ça, la danse et le mouvement physique, ça a été vraiment très important pour lui. C'est sa moyen d'expression naturel. Et donc, au fur et à mesure de notre travail ensemble, c'est-à-dire on se voyait toutes les semaines, une fois au moins, même parfois juste pour boire du café, pour discuter. Et donc, petit à petit, il est devenu très intime, enfin, c'est un ami. Enfin. Et donc, il s'est ouvert et puis il a raconté sa vie. Et donc, le personnage de Rachid dans le film est très très proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on tourne dans son appartement au bord de la périph. C'est quelqu'un qui a grandi dans un foyer depuis l'âge de 3 ans. Enfin, tout ce qu'il dit dans le film est absolument vrai. Enfin, c'est vraiment sa vraie vie. Et il a aussi participé largement dans l'écriture de son personnage. Alors, le film est né quelque part entre la rencontre de ces images de YouTube et Rachid. Anaïta est jouée par une actrice française qui s'appelle Alice Belaïdi, qui est une actrice professionnelle, complètement... qui a fait du théâtre depuis le plus jeune âge, donc c'est un professionnel. Son personnage est un mélange entre plusieurs choses. D'un côté, ça c'est des gens que j'ai connus qui ont vécu des choses comme ça, des déchirés entre deux choses, mais aussi un tout petit peu ma propre expérience en vivant dans d'autres pays tout le temps et de tout le temps être dans une espèce de limbe de no man's land identitaire quelque part, et enfin de d'être là et ne pas y aller et puis rester ici, mais c'est pas bien non plus, et puis c'est de limbe perpétuel.
Pour terminer, simplement, est-ce que vous avez là un projet en cours, du coup, peut-être lié à ce film?
Absolument. Là, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle « La révolution ne sera pas tweetée », et qui parle de justement réseaux sociaux, changements sociaux, ou plutôt comment est-ce que justement, à la suite de cette crise, une crise de civilisation, enfin civilisation, faut pas déconner, une crise de capitalisme, une crise actuelle, comment est-ce qu'on pourrait utiliser les expériences de printemps arabes ou le mouvement vert en Iran, comment est-ce qu'on pourrait utiliser leurs expériences de l'utilisation des réseaux sociaux pour construire notre société, c'est-à-dire que ne pas juste se débarrasser d'un dictateur, mais aussi de justement utiliser les réseaux sociaux pour construire une autre société.
C'était le réalisateur hongrois David Doucha dont le film Fleur du Mal a été présenté au festival de Karlovy Vary. Il répondait aux questions d'Anna Kubishta. Place maintenant à vos lettres, chers amis. Le courrier des auditeurs de Radio Prague, c'est aujourd'hui exceptionnellement avec Pierre Maignan.
Courrier des auditeurs.
En cette période estivale, de nombreuses lettres de votre part, chers auditeurs, chères auditrices, sont venues ensoleiller la rédaction de Radio Prague. Qu'il s'agisse de recommandations liées notamment au concours qu'a organisé la radio au printemps et qui a fait beaucoup parler de lui, ou de vos encouragements, nous vous remercions pour ces précieux messages, lesquels nous font toujours très plaisir. Nous commençons cette semaine avec un courrier que nous a fait parvenir Christian Guibaudeau depuis les Alpes-Maritimes.
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté votre émission ce mercredi 6 juillet, jour férié, en Tchéquie, en l'honneur de Jan Hus. Ce fut pour nous l'occasion de réécouter quelques rubriques des années passées. C'était très intéressant, surtout la chronique sur l'athéisme en Tchéquie, comme il est maintenant admis que les Tchèques sont de moins en moins croyants et ou pratiquants, quelle serait leur réaction si, à l'avenir, le gouvernement préconisait la suppression de jours fériés à caractère religieux. Pour Noël, je crois savoir qu'il y a 3 jours fériés en Tchéquie. Les Tchèques accepteraient-ils de n'avoir que le jour de Noël? Y a-t-il des enquêtes à ce sujet? Ce débat ressurgit de temps en temps en France, où certains intellectuels voudraient supprimer 2 jours fériés religieux pour les remplacer par des fêtes musulmanes ou juives. Mais en fait, le chemin qui semble pris pour les années à venir serait celui de supprimer un jour férié, mais pour d'autres raisons.
Cher Christian, à Noël, Vanoce, les Tchèques disposent en effet de 3 jours fériés. Le 24 décembre est le jour du réveillon, appelé journée d'abondance, jour durant lequel sont distribués les cadeaux. Le 25 décembre correspond au festin de Dieu, et le 26 décembre s'apparente à la Saint-Étienne. Nous n'avons trouvé aucune étude concernant l'éventuelle suppression de l'un de ces jours fériés. De même, il n'est pas possible de savoir comment réagirait la population tchèque à une telle décision. Gageons cependant que les Tchèques sont relativement attachés à leurs traditions, et que remettre en question certaines d'entre elles ne serait sans doute pas vu d'un très bon œil. Pour info, les Tchèques disposent de 13 jours fériés et peuvent jouir par ailleurs de 20 jours de congés payés, ce qui correspond au seuil minimal de congés au sein de l'Union européenne. Ce qui me permet de faire le lien avec la suite de votre courrier, évoquant le début des vacances au bord de la Méditerranée, un petit peu de rêve aux continentaux que nous sommes.
Ici, sur la Côte d'Azur, après un week-end très chargé et la présence de très nombreux touristes du monde entier, c'est le début des vacances, beaucoup de touristes, mais avec les salariés aussi en congé, la circulation n'est pas très dense. Exception, comme je vous le disais plus haut, le week-end dernier, où le mariage princier à Monaco a déplacé beaucoup de monde. Les rues de la principauté étaient chargées de monde. Je suis souvent à Monaco et je n'avais jamais vu autant de monde.
Enfin, Christian, vous évoquez la date du 31 août prochain, qui constituera pour la radio un véritable événement, puisqu'elle fêtera alors ses 75 ans. Pour l'occasion, la station tiendra des stands au cœur de la ville de Prague, d'où des émissions spéciales seront émises. À ne pas rater donc. Nous continuons avec le courrier que nous a écrit Claude Farandon, au nom de l'association dont il est le président, les Amis de Sedol Tchagny. Cette association œuvre à la vitalité de l'amitié qui lie la ville de Taverny, au nord de Paris, à celle de Sedol Tchagny, au sud de Prague, depuis leur jumelage en 1993. Dans sa lettre, Claude Farandon évoque le récent décès d'un violoniste tchèque de génie, Josef Souk, qui évidemment a bouleversé de très nombreuses personnes.
Par votre site Radio Prague, nous avons appris le décès de Josef Souk. La République tchèque perd un très grand violoniste et Sedol Tchagny, notre ville partenaire, perd un ami très cher. Plusieurs fois, nous avons visité Křečovice et rencontré Madame Souková, sa grande tante. Peu de temps avant sa mort, Madame Souková avait même tenu à nous donner le numéro de téléphone portable de Josef Souk. Nous avons aussi visité plusieurs fois le mémorial Dvořák à Vysoká Upříbramě et rencontré son cousin Petr Dvořák. Nous avions longuement discuté avec Monsieur Guy Erisman, musicologue, spécialiste de la musique tchèque. Monsieur Erisman nous avait fait parvenir son Dvořák avec une très chaleureuse dédicace. Nous sommes sincèrement affectés par le décès de ce violoniste reconnu mondialement. Nous voudrions vous remercier pour votre travail qui nous permet de vivre au quotidien auprès de nos amis tchèques.
C'est à Sedol Tchagny que Josef Souk avait du reste eu l'occasion de jouer son premier concert. À noter d'autre part qu'une cérémonie d'adieu était organisée jeudi dernier par le Festival du Printemps de Prague et la Philharmonie tchèque en l'honneur de ce virtuose du violon. Il repose désormais dans le caveau familial du cimetière de Vyšehrad, cimetière où sont enterrées de nombreuses grandes personnalités de la nation tchèque. Concernant l'association des amis de Sedol Tchagny, vous trouverez des informations à l'adresse internet suivante http://amidesedolchani.blogspot.com. On poursuit l'exploration de votre riche correspondance avec un message de Paul Jamet d'Argenteuil qui s'adresse plus particulièrement à Václav Richter. On l'écoute.
Message à l'attention de Václav Richter et de sa chronique Rencontre littéraire consacrée le week-end dernier à l'ouvrage Praga Magica d'Angelo Maria Ripellino. Excellente émission, il s'agit d'une excellente invitation à lire ce livre.
Mais vous nous signalez par la suite avoir eu du mal à vous procurer ce livre et préciser à l'intention de nos auditeurs qu'il faut sans doute se résoudre à l'emprunter à la bibliothèque. Enfin, notre fidèle auditeur André Bio nous a fait part de son admiration pour la joueuse de tennis Petra Kvitova qui vient de s'illustrer en remportant le prestigieux tournoi du Grand Chelem de Wimbledon.
J'ai suivi avec beaucoup d'attention le tournoi de Wimbledon et le magnifique succès de Petra Kvitova. Bravo à elle. Elle est encore très jeune et je pense qu'elle remportera d'autres tournois du Grand Chelem. Je la verrai très bien en numéro 1 mondial d'ici 1 ou 2 ans.
Il ne nous reste plus qu'à espérer que votre prophétie se réalise. D'ici là, nous espérons recevoir à nouveau de très nombreux courriers, car c'est vous, auditeurs, qui faites vivre Radio Prague.
Merci à Pierre pour ce numéro du courrier des auditeurs. À la fin de notre programme, nous vous proposons une rencontre littéraire que son auteur Václav Richter a intitulée « Une enfance revisitée par un homme vieillissant ».
rencontre littéraire. Mon livre est basé sur la réalité, bien que je donne parfois libre cours à ma fantaisie. Dans ma jeunesse, je faisais aussi de telles escapades, dit l'écrivain Antonín Bayaya de son roman, dont le titre fait allusion à la célèbre valse de Johann Strauss. Le livre, La belle Drzewnice bleue, évoque par son titre la rivière de Moravie qui traverse Zlin, la ville natale de l'auteur. Et c'est cette ville qui est aussi la scène principale où est située la trame de ce roman dans lequel le passé côtoie le présent. Cette chronique très originale de la seconde moitié du XXe siècle a valu à Antonín Bayaya le prix national de littérature. C'est à Marcord, le film biographique et fantastique dans lequel Federico Fellini a immortalisé Rimini, la ville de son enfance, qui revient sans cesse dans le texte du roman d'Antonín Bayaya et crée un parallèle à son récit. Le romancier raconte des scènes entières du film et les juxtapose avec les épisodes de sa propre vie. Il n'hésite pas à couper son récit à d'innombrables reprises pour y glisser les épisodes felliniens et pour donner à sa narration un second plan. La rédaction de ce roman est un aboutissement d'un long processus qui, selon ses propres dires, a commencé dès la période de ses études, donc dans les années 1960, et ne s'est achevé qu'à la fin des années 2010. En écrivant mes souvenirs d'enfance, je me soulageais, au début des années 60, de l'époque que je vivais, j'échappais au cauchemar, dit l'auteur de cet ouvrage, dont la composition est donc bien loin d'un roman classique. C'est un livre mosaïque, une somme considérable de souvenirs, de réflexions, de commentaires, de lettres et de citations de textes d'autres auteurs. Il s'agit souvent de documents familiaux intimes et l'auteur a longtemps attendu avant de décider finalement de les insérer dans son livre.
À l'époque où j'ai écrit ces lettres, il n'était pas possible de les publier. Elles étaient trop intimes et ne concernaient que la famille ou les gens qui m'étaient très proches. Ces gens vivaient encore et ils n'auraient peut-être pas été d'accord avec la publication de ces lettres de leur vivant. Mais comme ces documents s'entassaient en grand nombre dans des caisses au grenier et dans des tiroirs, et comme on me disait qu'il serait peut-être bien d'en faire un livre, j'ai finalement décidé de les utiliser. Même ma mère m'a interdit autrefois de parler de ma famille dans mes écrits et d'utiliser des grossièretés. Il est très difficile de parler dans un livre de nos parents. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus difficile. A o rodičích se píše velice
zle, myslím nejhůř ze všeho. Le roman est écrit sous forme de lettres adressées à la sœur de l'auteur, Jana, surnommée Jeanne, compagne et témoin des avatars, des horreurs et des plaisirs de son enfance. Le théâtre de cette enfance, la ville de Zlin, est dans la première moitié du XXe siècle la ville rayonnante du roi de la chaussure Tomáš Baťa et de son frère Jan, qui en ont fait non seulement un important centre industriel, mais aussi une vitrine de la nouvelle architecture tchèque. Antonín Bayaya, né en 1942, vit cependant le déclin de la ville. Son enfance, juste après la guerre, aurait pu même être heureuse s'il n'y avait eu le coup d'État communiste en 1948 et si le rideau de fer n'obscurcissait pas l'horizon. Sa ville elle-même perd son caractère, son identité et même son nom, car elle est rebaptisée Gottwaldorf et portera donc pendant 4 décennies le nom du premier président communiste Klement Gottwald. La perception de ces événements par le petit Antonín est cependant quelque peu adoucie par son âge. L'écrivain se souvient.
Nous jouions aux billes, nous nous poursuivions dans la rue et autour de nous les gens perdaient la liberté, l'espoir, leurs biens. Je ne place les biens matériels qu'en dernière position parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais grâce à nos parents, grâce aux adultes qui voulaient nous permettre de vivre notre enfance, nous ne nous rendions pas compte de tout ça, pas vraiment. Ce n'est que plus tard que nous nous sommes rendus compte de ces choses-là, quand ils ont emprisonné mon père, et puis quand ils l'ont relâché, parce qu'il n'avait apparemment rien contre lui. Il n'a été qu'en détention préventive, mais quand il est revenu à la maison, son cabinet de médecin avait été liquidé, et à sa place, il y avait dans notre maison un centre d'hygiène. Ce n'est qu'ultérieurement qu'on réalise ce genre de choses, où on les emmure dans la mémoire, comme disaient les psychologues et les psychiatres, et puis cela nous revient dans des cauchemars.
Fils d'un médecin poursuivi par le régime, Antonin Bayaya devient, après des études à l'école supérieure d'agriculture à Brno, zootechnicien dans une coopérative agricole, puis chef de laboratoire agricole de Zlin. Après la révolution en 1989, il se lance dans le journalisme et travaille d'abord à la radio tchèque, puis pour la station Europe Libre. À partir de 1996, il dirige les séminaires d'écriture littéraire de l'université Palatsky d'Olomouc. Simultanément, il écrit en 1994 son roman Zvlčení, devenir loup, et obtient le prix Magnesia Litera. Son dernier opus, La belle Dřevnice bleue, reflète, selon son auteur, les changements que l'âge a apportés à sa vision de son enfance. Il se souvient et évoque avec originalité et humour, souvent irrésistible, la vie des années 50, les années du terrible culte de la personnalité, de la collectivisation et des pires aberrations staliniennes qui retombaient lourdement sur sa famille, famille d'intellectuels, de paysans et de cosmopolites. Il compose un portrait désabusé de ce garçon qu'il a été, garçon qui s'est laissé leurrer par la propagande communiste. Tiraillé entre son admiration pour les dictateurs Staline et Gottwald et l'anticommunisme bien justifié de son père, médecin que les communistes ont mis en prison pour lui voler son cabinet, il préférait croire aux promesses des idéologues soviétiques. Cela a marqué ses rapports avec toute sa famille et notamment avec sa tante, chassée par le régime de sa maison et réduite à faire des ménages.
Je voulais la dénoncer, ma tante, parce qu'elle écoutait les émissions d'Europe Libre. Je n'avais que 6 ans, j'étais en première année d'école élémentaire, mais peut-être que je me trompe et que j'étais déjà en 3e. Le temps qui passe dans la tête est différent du temps réel. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai fini par travailler pour la radio Europe Libre. Dans ce livre, je ne regarde pas le monde seulement par les yeux de l'enfant que j'étais, je le regarde aussi par les yeux d'un homme vieillissant. Et c'est peut-être justement cette différence, ce frottement entre la vision enfantine et la vision adulte du monde qui crée une des dimensions, une des tensions de ce livre.
Dans ce roman, la narration est menée à plusieurs niveaux chronologiques. Des réminiscences historiques interviennent dans les passages qui racontent la vie dans les années 50. Des lettres et d'autres documents cités illustrent l'évolution de la pensée du héros du livre et de toute la société tchèque au cours du demi-siècle dernier. Les erreurs du passé sont confrontées avec les certitudes du présent, et le lecteur en vient nécessairement à se demander combien de ses croyances, de ses aspirations et de ses certitudes actuelles résisteront au jugement de l'histoire dans 10, 30, 50 ans. Et ce n'est pas la moindre des questions posées par ce livre.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire consacrée aujourd'hui à l'écrivain Antonin Bayaya que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová et Aleš Pezl. Guillaume Nargué vous retrouve dimanche pour le magazine musical. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur internet au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse cr@radio.cz. Bonne fin de week-end, nashledanou, au revoir.
Radio Praga.